Actu SF, les podcasts.
Bonjour. Je suis à la base directeur artistique, je fais du design, je suis auteur de bande dessinée, j'ai fait du dessin animé aussi. J'ai évolué dans pas mal de champs différents dans la création, le dessin animé, l'illustration, etc. Et voilà, je suis sorti d'une école d'art il y a à peu près 30 ans. Donc j'ai eu le temps un peu de voir un peu comment ça se passait à droite, à gauche, de rencontrer plein de gens différents, de partir sur des collaborations complètement opposées, parfois même à l'étranger. Donc on va peut-être aussi un peu voir ça. J'ai essayé de ne pas trop me disperser. Si vous voyez qu'à un moment donné, il y a des trucs qui ne sont pas clairs ou vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, je suis obligé de parler dans un micro, mais je pense que je vous entendrai facilement. N'hésitez pas à faire des grands gestes comme ça. Voilà, donc à la base, quand on m'a demandé d'intervenir ici, j'étais censé parler des super-héros. Je fais une petite digression là-dessus parce qu'il se trouve que je déteste les super-héros. C'est une horreur. Alors, je leur ai très gentiment expliqué pourquoi. Et pour moi, le super-héros, c'est quand même une incarnation du fascisme tel qu'on a pu le connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je me suis dit, déjà, en tant que lecteur, je déteste ça. Et je me voyais mal parler de ça, parce que je n'avais pas envie de parler de nazis, de rigoler avec ça, et puis de parler de culture américaine en général. Parce que le super-héros, pour moi, c'est au-delà du fascisme, c'est vraiment un cheval de Troie. De la culture mainstream américaine qui infuse à l'international nos vies au même titre que le manga ou ce genre de création qui est devenue somme toute assez internationale. Et en plus, je pense que c'est pas du tout notre culture. Enfin bon, bref, hier, en réfléchissant un peu à ce que j'allais vous dire, je me suis dit quand même, je leur avais dit non sur les super-héros. Et ils ont quand même trouvé moyen d'essayer de me faire parler sur les extraterrestres. Je me suis dit, c'est quand même... Ils sont vraiment assez salauds parce que, mine de rien, je voulais me remettre un peu à hauteur d'homme, parler de vraiment d'une confrontation avec un autre qui nous serait pas supérieur forcément. Et de fil en aiguille, je suis quand même obligé de vous reparler de super-héros intergalactiques. Alors, on verra un peu la façon dont tout ça peut s'articuler. Mais je me dis, en tout cas, il y a des espèces de thèmes sous-jacents qui doivent correspondre à l'époque, peut-être, ou en tout cas aux préoccupations de tout un chacun, ou peut-être du festival de science-fiction cette année autour de ce qui se passe avec le LU, qui ont fait en sorte que je n'ai pas pu échapper au thème. Donc, j'imagine que de temps en temps, on va un peu digresser vers ces territoires-là. Le fil est un peu chiant. J'ai quand même testé un déplacement latéral. Je vais voir. J'ai l'impression d'être dans Seinfeld. Hey, c'est pas mal aussi par là. Salut. Donc, voilà. Donc, on va parler de l'extraterrestre, de la représentation de l'extraterrestre dans la bande dessinée. Je me mets là parce que là, avec les spots, dans la bande dessinée. Parce que, bah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, il y a une bande dessinée qui est sortie il y a un mois sur laquelle j'ai fait du design, c'est-à-dire j'ai conçu des environnements, des extraterrestres dans le cadre de cette bande dessinée-là. Et puis là, je vais le faire l'année prochaine aussi, d'une autre façon, alors pas du tout avec des extraterrestres, mais plutôt avec des robots, dans le cadre d'une série qui va apparaître avec les deux Antouilles là-bas qui ricanent dans le fond, à savoir Gwen de Bonneval, j'allais dire Hervé Tancrel et Fabien Vellman, au scénario et Hervé Tancrel au dessin. Ce sera sur des bases à peu près communes, ce sera une histoire complètement différente sur laquelle j'ai fait le même type de travail que celui dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Ce qu'on va faire aussi à un moment donné, c'est qu'il y aura peut-être des petites digressions vers le cinéma ou vers l'illustration, parce qu'il me semblait aussi que je ne pouvais pas vous parler juste de la façon de représenter l'extraterrestre ou l'autre, qu'il soit supérieur ou inférieur. En général, il est plutôt supérieur. Mais juste dans le champ de la bande dessinée, en évitant complètement ce qui se passait autour. Pour moi, c'est complètement indissociable, quelque part. Alors pourquoi ? Bah parce que, de toute façon, c'est des champs de création qui font partie d'une même époque, qui ont à peu près le même passif et qui évoluent en même temps. Voilà. Donc voilà, il y aura des petites digressions comme ça. Et puis, au niveau des images, il n'y aura aucune digression parce que, comme je vous le disais, moi, j'ai choisi vraiment de m'adresser à vous sans le biais d'images parce que je pense que je vais vous parler d'œuvres, de films, de bandes dessinées. J'imagine que vous êtes un minimum féru de bandes dessinées de science-fiction, de films. Vous en avez vu un minimum, en tout cas les plus connus. Et je pense que ceux dont on va parler, vous aurez vraiment des images qui vous viendront aisément à l'esprit sans qu'on ait besoin de passer par l'artifice d'une projection comme ça vidéo. Puis l'autre chose, c'est que j'avais vraiment la flemme de me balader avec mon bon Mac. Il faut aussi dire ce qui est, c'est quand même lourd. J'ai autre chose à faire aussi cet après-midi. Donc je me suis dit, allez, soyons fous. Je vous passerai peut-être le hardbook sur mon boulot que j'ai publié il y a quelques années. Et puis je pense qu'on se débrouillera bien comme ça. Donc oui, ce que je voulais commencer par faire, c'est dire, bon, voilà, j'ai commencé à aborder le problème en me disant, des extraterrestres dans la bande dessinée, il y en a. Est-ce qu'il y en a vraiment suffisamment pour avoir marqué des séries, des œuvres, des œuvres d'auteurs sur la longueur? Est-ce qu'il y a suffisamment de créations autour de ce thème qui soient emblématiques au milieu? Donc, je ne sais pas, est-ce que vous, il y a des œuvres qui vous ont marqué où il y ait vraiment des extraterrestres comme ça qui soient mis au devant de la création, au devant d'une œuvre qui soit hyper emblématique? Est-ce que vous avez, en bande dessinée, des exemples comme ça de séries qui vous viendraient vraiment à l'esprit de suite si on aborde le thème? Voilà, très bien. Sillage, très bien. Bon, il y en avait peut-être un troisième auquel j'avais pensé. Alors, vous sortez. Non, je rigole. Non, mais effectivement, il y en a. Bon, je pensais aussi peut-être aux albums de Léo, à Aldébaran, tout ça, parce qu'il y a des extraterrestres qui ont une part prenante dans l'intrigue, qui sont au centre un peu des préoccupations des personnages, qui sont un peu à l'extérieur aussi. Ils sont vraiment autres. Mais effectivement, les deux séries que vous avez citées, c'est exactement celles auxquelles j'ai pensé. C'est celles auxquelles tout le monde pense, parce que tout bêtement, elles sont incontournables. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont incontournables? Moi, je pense que déjà, ça tient lieu au spectre vraiment déployé par le scénariste au premier chef et le dessinateur. C'est vraiment une rencontre entre deux créateurs. Et c'est surtout un univers qui se déploie au travers d'environnements et surtout de personnages. Parce que tous ces environnements, on est bien d'accord qu'ils sont habités par des personnages qui vont être super importants pour véhiculer les histoires. Et comme on le verra plus tard, des émotions, des interactions avec les personnages principaux. En tout cas, ce qui est assez rigolo dans ces deux œuvres-là, c'est que dans Valérian, on se retrouve quand même avec un humain, avec deux humains qui sont au centre de l'univers, de l'intrigue, et qui interagissent avec des races complètement différentes. Dans Sillage, on renverse un peu le processus, parce qu'il y a toujours une humaine qui est au centre du discours, mais elle est tellement entourée, elle devient tellement marginale qu'elle essaie quand même de prendre sa place dans cet univers-là. Donc ça me semblait aussi intéressant de me dire, là il y a peut-être sur une base commune, il y a peut-être deux petits extrêmes du spectre qu'on peut aborder en tant qu'auteur sur la plage de notre personnage principal. Vous remarquerez quand même que sur Sillage, il y a quelques personnages extraterrestres qui sont quand même des personnages principaux. Mais, comme par hasard, ils sont anthropomorphes. Vous remarquerez que dans ces deux œuvres-là, vous ne vous retrouvez pas avec une pieuvre. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait... Je n'ai pas de souvenir, peut-être, dans Valérian, d'un personnage un peu autre, d'un quelque chose qui nous ressemble vraiment beaucoup. Et ça aussi, je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi qu'au niveau de la création, que ce soit avec le super-héros ou avec l'extraterrestre, qu'il ait des intentions pacifique ou belliciste, on se retrouve de toute façon face à nous-mêmes, d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça aussi que le super-héros, ça me semblait vraiment embêtant d'avoir quelque chose qui se plaçait vraiment au-dessus de nous de manière vraiment absolue. Avec l'extraterrestre, je pense qu'on est plus, on est moins dans un rapport de force et plus aussi dans une découverte mutuelle. Donc voilà. Donc voilà, ces deux œuvres-là, moi je suis assez d'accord pour dire que c'est dans le genre deux incontournables du genre. Après, il faut savoir aussi que ce n'est pas des œuvres qui se sont construites toutes seules. Elles résultent aussi d'une période d'ouverture. Pour Valérian, les années 60, pour Sillage quand même, c'est plus une époque plus proche de nous, mais qui a correspondu un peu aussi, qu'on le veuille ou non, à l'ouverture des réseaux. Tout bêtement, à l'arrivée d'Internet, ce genre de choses-là. Donc, à chaque fois, ces deux œuvres majeures parce que se sont imposées de par leur spectre narratif et créatif, mais aussi, je pense, parce que ce sont deux œuvres qui arrivent à un moment donné d'une période de l'humanité où il y a une ouverture vers l'extérieur. et vers quelque chose de complètement nouveau. Je pense que tout ce qui était voyage dans les années 60, ouverture vers les autres, l'écologie naissante, ça a quand même permis une prise de conscience qui a permis vraiment d'aller plus vers l'extérieur et de se sortir d'une société assez corsetée. Mine de rien, on sortait quand même de l'après-guerre, des sociétés européennes, américaines des années 50. Et pour ce qui est de sillage, ça a été un voyage un peu plus immobile, parce que l'Internet, en gros, on a l'impression de rester chez soi, face à soi, avec son entourage immédiat. Mais mine de rien, ça a été aussi une fenêtre qui s'est ouverte vers le monde, et donc qui a posé forcément des questions, qui a posé questionnement. Donc je pense que dans les deux cas, ce sont des œuvres qui sont arrivées à des moments charnières de ce type-là. Et d'ailleurs, je vous parle aussi de ces moments charnières parce que je travaille pour un éditeur qui est Guy Delcourt, qui édite Sillage et qui a une théorie sur vraiment le fait de lancer des séries de science-fiction qui vont être suffisamment riches et suffisamment bienvenues pour devenir majeures. Il a une théorie que je trouve intéressante qui il me dit, je pense qu'il y a une série de ce type-là qui arrive tous les 15-20 ans. Il m'a dit. Essaie de me citer d'autres exemples de séries comme ça qui vont devenir incontournables et qui vont s'imposer à tout le monde, soit par un succès commercial, soit par un succès critique. Effectivement, j'étais comme vous quand je vous ai demandé quelle série vous allez me citer. J'ai cité Valérian et Sillage. Alors, quand j'ai cité Sillage, il était bien évidemment très heureux. Mais le revers de la chose, c'est que si en ce moment vous essayez de vendre une nouvelle série de science-fiction à un éditeur comme Guy Delcourt, il va vous regarder d'un œil un peu tort et puis il va vous dire, mais non, il y a déjà deux séries incontournables, il est hors de question que je prenne le risque de lancer à grande échelle autre chose, même s'il peut y avoir une vision assez pérenne sur des questionnements actuels comme on peut l'avoir en ce moment sur Renaissance. Vous avez lu un peu Renaissance ou pas? Je vais prendre votre question juste après. Non? Oui? Bon, bah sur Renaissance, on est parti aussi sur un type d'ambition proche de celui, en tout cas, on imagine qu'ont pu avoir Mézières et Christine sur Valérian ou Buchez et Morvan sur Sillage à l'époque. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment envie d'ouvrir le spectre à un moment donné. Là, je me dis, on est quand même en train d'ouvrir aussi sur des questionnements liés à l'avenir de la planète, au flux de population, etc. On l'a pas fait pour ça, cette série-là, mais je pense aussi que c'est là en ce moment, que ce soit Renaissance ou d'autres séries, il y a des séries qui vont arriver là dans les 2, 3 années qui vont venir et qui risquent d'être importantes pour plus tard, parce que je pense qu'on est de nouveau dans une espèce de période d'ouverture comme ça sur le monde. Alors, je vais prendre. Alors, Infinity 8, oui, il y a Infinity 8. Alors, le problème d'Infinity 8, je dois être carrément honnête avec vous, je ne l'ai pas lu. Je l'ai feuilleté, je connais très bien les deux créateurs. Et Infinity 8, pour moi, c'est une série sans remettre en question la volonté des auteurs de faire une série de qualité. Je pense que c'est une série qui ne va pas vers le futur, qui ne correspond pas à un de ces moments d'ouverture dont je vous parlais avec Valérian Sillage et là, je pense, celui qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est plus une série qui est ambitieuse par sa forme, mais qui, par son contenu, repart en arrière. Parce que c'est une série qui fait vachement référence aux années 50, à des thèmes de la SF d'après-guerre. Moi, je trouve que c'est une série qui a un peu buté contre son camp. Voilà, tout bêtement. Ça peut avoir des côtés fun, ça peut avoir des côtés vraiment jouissifs et tout ça, mais je ne pense pas qu'avec un postulat de base de ce type-là, on puisse marquer à long terme les esprits, parce que tout bêtement, au lieu d'aller vers de l'avant, au lieu de s'emparer des thèmes actuels de notre société, de notre monde, c'est quelque chose qui nous ramène en arrière, et en plus qui nous ramène vers quoi? Vers la SF des années 50, donc la peur du communisme. Franchement, qui a peur des communistes ici, à part peut-être des fois Mélenchon quand il veut enfoncer les portes, mais c'est un autre débat poussé. Mais n'empêche que je pense qu'il y a vraiment un, il y a vraiment, ouais, je, vraiment, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, ils ont buté contre leur camp. On peut pas parler de notre époque actuelle en revenant à ce point-là vers surtout des thèmes et surtout des schémas, parce que même au niveau graphique, on repartait vraiment vers quelque chose qui tient plus lieu de l'enfance ou voilà pour évoquer des moments de la société occidentale où vraiment on rigolait beaucoup moins que maintenant et tout était de nouveau très très corseté. Dans le genre, il y avait le Géant de Fer aussi qui était super chouette, qui était un dessin animé, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui parlait de l'émergence de l'arme atomique, de l'arrivée de l'âge de l'espace avec le premier Spoutnik et qui parlait vraiment de ça, de la paranoïa américaine de l'époque qui était géniale mais qui n'a pas eu de descendance parce que je me dis que avec des thèmes pareils, on ne peut pas aller de l'avant. Voilà, ça peut être très intéressant de se repencher vers le passé, de décortiquer un peu ce qu'on a envie d'y trouver, ou en tout cas de nouvelles significations, mais je ne pense pas qu'on puisse innover et amener des lecteurs, les embarquer sur un voyage au long cours sur les années qui viennent. Voilà, donc je comprends ce que vous me dites. Et c'est pareil avec Léo. Je me dis, Léo, ces extraterrestres, je trouve ces univers super intéressants. Et d'un autre côté, il y a quand même une distance entre les personnages humains et les aliens, en tout cas moi, de mon point de vue, qui permet de fédérer des lecteurs, parce que il y a des énigmes sur ces rapports de personnages, etc. Mais je ne pense pas que, au bout d'un moment, c'est des créateurs qui ne mettent pas les deux camps un peu en situation de se parler franchement et d'évoluer ensemble de bonne ou de mauvaise manière. Donc voilà, donc effectivement, pour moi, je pense que les deux enfin, Sillage et Valérian sont vraiment importants pour ça. Bon, après, ce qui est important aussi, au-delà de ce que ça a pu représenter à l'époque, parce que là, je parle presque de l'époque de lancement de Sillage comme du passé, mais oui, ça fait quand même 20 ans quasiment. On l'a vécu comme les gens qui ont 70-80 ans maintenant ont lancé le lancement de Valérian, donc on a l'impression que c'est encore hyper immédiat, mais non, ça fait 20 ans quand même. Donc voilà, je pense encore qu'il y a une question de cycle à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant quand on revoit aussi, on remet ça en perspective avec ce qui s'est passé, mais à côté, à l'époque, dans le cinéma, dans l'illustration. C'est aussi intéressant de voir le dialogue qu'il y a entre ces œuvres et ce qui s'est passé à l'époque, notamment dans le cinéma, et puis dans un deuxième temps dans l'illustration, qui est un phénomène beaucoup plus périphérique, mais qui est très intéressant parce que des fois, il y a des idées, il y a des thèmes qui naissent aussi de cette micro-niche créative. Et qui infuse aussi tout le reste. Ça, on le verra peut-être plus tard, mais ça se recoupera aussi avec le cinéma. Donc, qu'est-ce qui se passe du temps de Valérian dans les années 70? Je ne sais pas si vous pouvez me citer beaucoup d'œuvres avant Star Wars de science-fiction. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit vraiment qui soit vraiment emblématique et qui soit indépassable? 2001, bien évidemment, c'est ce qu'on aurait dit tous, je pense. Est-ce qu'il y en a une autre? C'est après, 79. Commencez pas avec Alien, parce que alors là, je pense qu'on est parti sur 3 heures. C'est un de mes péchés mignons. Alors voilà, il y a eu Planète Interdite, exactement, qui vient un peu avant 2001, qui est à peu près 10-15 ans avant 2001. Mais en tout cas, voilà, je vous demanderai aujourd'hui de me citer plein d'univers de science-fiction, de fantasy. Je pense qu'entre les super-héros, les trucs de space opéra, les Star Wars, les franchises, j'aurai beaucoup plus de réponses que ça. Donc voilà, ça c'est intéressant parce qu'il faut vous dire qu'au moment où Valérian est lancé, si vous mettez ça, on se dit, ouais, il y a une série dans les années 60 qui va infuser, qui va infuser plein de séries plus ou moins à la hauteur de cette création-là. Mais en tout cas, ça devient hyper emblématique. Pourquoi? Parce qu'elle est toute seule. Et quand on regarde en parallèle ce qui se passe dans le cinéma, ou dans l'illustration dans ces années-là. L'illustration est très riche, mais il y a très peu d'illustrateurs de science-fiction, en tout cas, qui a encore une reconnaissance de nos jours. Mais en tout cas, dans le cinéma, il y a très peu d'œuvres. Alors pourquoi il y a très peu d'œuvres? Bon, déjà, je pense que c'est comme au moment de Valérian, la société est plus corsetée, donc forcément, on est plus dans du drame. Il y a quand même toute la Seconde Guerre mondiale à digérer, il y a quand même des trucs très lourds à soit évacuer, soit à affronter, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans ces thèmes-là. Donc, ce qui se passe dans les années 60, c'est qu'il y a la génération de baby-boomers qui arrive, qui sentira un trait sur ce qui s'est passé avant, qui a envie de nouveau, qui a envie de voyager. Voilà, il va y avoir un côté aussi, il va y avoir toute la génération, il va y avoir les beatniks, tout ça, les hippies. Et donc, toute cette ouverture qu'on trouve dans la société et dans les films, on va aussi la retrouver dans Valérian. Alors, le seul film, effectivement, bien avant 2001, c'est Forbidden Planet. Mais Forbidden Planet, c'est encore la société corsetée américaine et c'est toujours un peu la peur de l'autre. On se dit que des gens qui ont essayé d'être supérieurs, une race extraterrestre qui a essayé de parvenir à un niveau de conscience supérieur à ce qu'elle était, en fait, peut-être a défié les lois de la création et s'est punie elle-même. Donc il y a quand même une espèce de châtiment judéo-chrétien. Alors là, ils sont pas contre le communisme. Enfin, ils n'ont pas des ils n'affrontent pas des monstres qui symbolisent le communisme, comme on peut avoir à l'époque dans les films de monstres avec des araignées géantes ou des fourmis. Mais n'empêche que quand on va dans l'espace, on se retrouve vite face à un plafond de verre, soit moral, soit éthique, soit religieux, soit voilà. Donc voilà, donc je comprends bien sur Forbidden Planet, mais pour moi, le premier film vraiment qui va initier tout, c'est 2001. Pardon, oui. Alors, le jour où le film La Terre s'arrêta, c'est pareil. C'est un film qui, à la base, est là pour aussi parler de la peur du communisme, la peur de l'autre qui vient, qui envahit. Après, ça va beaucoup plus loin, je suis d'accord. Mais on est quand même encore dans ce. Il y a l'armée qui est vachement en avant. Pareil, dans Forbidden Planet, c'est l'armée qui débarque sur une planète. Donc, on a vraiment l'impression que c'est presque à chaque fois des espèces de. Dans Forbidden Planet, presque une mission de l'armée pilotée par la CIA qui va sur une planète inconnue pour. Je sais plus comment ils débarquent là-dessus au début de l'histoire, mais en tout cas, l'armée est super présente. Pareil, dans le jour où la Terre s'arrêta, on est encore dans l'après-guerre. Dans 2001, on va vraiment. Kubrick, qui a jusque-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il avait très envie d'aller vers la science-fiction. Il s'en méfiait beaucoup parce qu'il avait une carrière qui était vraiment en train de se construire. Et puis une carrière qui avait commencé dans les marges d'Hollywood, et puis vraiment, il avait filé des budgets de plus en plus importants, il voulait de plus en plus avoir le contrôle. Il s'est dit, si je pars trop tôt sur un sujet pareil, je vais carrément basculer dans la catégorie des films pour enfants, je vais être complètement décrédibilisé. Et puis lui, il avait vraiment une vision vraiment au long terme. Donc je pense qu'il a attendu vraiment le bon moment pour lancer ce projet-là. Effectivement, c'est à peu près les années pilotes dans lesquelles Mézières et Christin vont oser aussi, alors pas pour les mêmes raisons, parce qu'ils n'ont pas une carrière à Hollywood à défendre, mais en tout cas, ils ont une vision de la société française dont ils veulent parler, qu'ils trouvent encore un peu trop corsetée, qu'ils veulent ouvrir plus sur l'extérieur. Kubrick, ça va être ça. Mais il veut vraiment s'affranchir de la peur de l'autre, de la confrontation avec les soviétiques. D'ailleurs, on voit bien au début du film, quand ils sont sur la station spatiale, il y a des soviétiques aussi. On sent qu'il y a encore un peu de guerre froide, mais en gros, tout le monde se parle. Plus personne n'est là pour s'affronter. N'empêche qu'au-delà de ces thèmes, c'est aussi un film qui reste emblématique sur cette période-là, tout bêtement parce qu'il y a des limitations techniques à l'époque. C'est-à-dire que quand Valérian va être lancé, il y a peut-être à un moment donné quelque chose qui doit arriver, mais voilà, la science-fiction, c'est encore un peu un truc de Benet qui est lu par quelques aficionados, c'est des romans un peu pour enfants, donc il y a quelques communautés qui commencent à s'agréger. Du côté d'Hollywood, à la limite, le problème, c'est pas du tout ça, c'est faire de l'argent, et surtout, du point de vue de Kubrick, c'est si je me lançais là-dedans, c'est le faire très bien pour pas être complètement décrédibilisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des moyens techniques, ça veut dire aussi avoir une histoire qui va aller au-delà de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, donc un affrontement Est-Ouest, et puis me donner tous les moyens pour ça. Donc la production du film va être vraiment super secrète, il va y avoir aussi pas mal d'avancées techniques, il va s'adjoindre les services de techniciens de la NASA pour construire tout ce qui est les environnements humains, etc. Donc tout se passe bien, il y a des échanges avec Arthur C. Clarke qui intellectuellement vraiment amène le truc très très loin, parce qu'au-delà d'un film de découverte d'une civilisation extraterrestre, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Ça rejoint presque voilà, certains questionnements de la religion. Donc à ce niveau-là, c'est un plan qui se déroule très très bien. Le seul petit accroc, bon après c'est pareil, au niveau technique, voilà, ils trouvent des solutions incroyables, ils vont des fois chercher des solutions qui avaient été un peu oubliées, qui venaient du film muet, tout ça. Bon, enfin bref, dans la forme, tout se passe bien. Le seul accroc majeur qu'ils vont connaître, c'est la forme des extraterrestres qu'ils sont censés rencontrer à la fin. Parce qu'il faut savoir qu'au début du film, au début du projet, ils étaient censés rencontrer une civilisation extraterrestre à la fin. Et ça va être un problème technique sur lequel ils vont buter, ils ne vont pas trouver de solution. Donc là, il y avait un désir d'aller vers l'autre et ils n'ont pas pu le concrétiser à la fin. Pour des problèmes techniques. Ils ont fait plein d'essais de sculptures, de représentations extraterrestres, et soit ils restaient trop près d'un anthropomorphisme qui ramenait peut-être aux premiers âges de l'humanité dans la première moitié du film, où on suit des ancêtres, les premiers ancêtres des humains qui sont confrontés aux monolithes, qui vont ouvrir leur conscience, soit ils partaient dans des formes extraterrestres complètement libres, mais qui partaient vraiment trop dans l'abstraction. Donc, ils se rendaient compte qu'à ce niveau-là, quand ils partaient trop dans l'abstraction, la technique n'allait pas suivre. Ça allait être ridicule à la fin. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les archives Kubrick publiées chez ta chaîne, mais il y a plein de petites photos d'essais. Il a essayé des danseurs avec des petits points lumineux. Ils ont fait des sculptures de trucs qui ressemblent à presque rien. Je sais pas ce que c'est des crottes de nez ou des espèces de coquillages comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont tourné pendant toute la production du film qui avançait bien autour de cette question-là. Ils se sont aperçus que, ben, malgré leur désir d'aller vers l'autre, d'aller vers le corps de l'extraterrestre, pour X raisons, ils ne pouvaient pas le faire. Et c'était forcément, à la base, un problème technique. Donc c'est pour ça que le monolithe a pris de plus en plus de place dans le film, et qu'à la fin, les extraterrestres, on les devine, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils ont établi le contact, mais ils ne se montrent pas. Hein, le Bowman se retrouve dans une espèce de zoo humain, où on ne sait pas trop, est-ce que c'est un truc pour le mettre en confiance, avant de le faire évoluer, tout ça. Mais en tout cas, l'extraterrestre est tellement supérieur, malgré les intentions de départ de Kubrick et de Clarke, il n'arrive pas à le formaliser. Du coup, l'extraterrestre reste un peu en dehors du cadre et par là même, est encore hyper supérieur à l'humain. Alors ça, c'est un problème que ne vont pas avoir Mézières et Christin sur Valérian, parce qu'eux, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de se voir de temps en temps, ils ont besoin d'un peu de papier, voilà, un peu quelques crayons, et puis beaucoup de réflexion, et puis ils vont pouvoir partir dans des réalisations de formes, d'évocations de vie extraterrestre complètement hallucinantes. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que malgré cette liberté qu'on n'a pas Kubrick, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va souvent se retrouver face à des créatures anthropomorphes. Vous avez très peu, à part les Shungus peut-être, mais qui ont un côté un peu comique, c'est un peu c'est un peu les Riri Fifi Loulou de Valérian. Ils sont là pour ça, non mais c'est vrai, il y a vraiment ça. C'est vraiment Riri Fifi et Loulou. On se rend bien compte que même s'ils ont la liberté que n'a pas Kubrick, alors ils ont aussi des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un film de 2 heures avec du son, du mouvement, ils ont du papier, donc ils ont des images fixes. Ils ont des images fixes, ils ont du texte, et ils ont de la couleur qui n'est pas un travail de couleur qui est quand même assez élaboré, mais qui n'est pas non plus du cinémascope. Hein, il y a des toutes petites cases, etc. Donc, ils vont quand même être obligés de faire interagir leurs 2 héros humains avec des personnages extraterrestres qui peuvent potentiellement avoir toutes les formes qu'on veut, mais qui ne vont pas les avoir. En fait, on s'aperçoit quand même que tous les personnages avec lesquels ils interagissent directement ont des formes plutôt anthropomorphiques. On a l'impression que c'est des acteurs avec des masques plus ou moins réussis, parce que Mézières est quand même un génie qui a défriché pas mal de choses en science-fiction. Des fois, on l'oublie un peu. Des fois, Jean-Claude, je vois un peu comme le Pouli d'or de la BD de ces années-là. On se dit, mais on pense jamais à lui comme un génie. Et quand on regarde vraiment ses cases, on se dit, mais Moebius, il a tout piqué. Il y a plein de mecs de cette génération-là qui ont piqué des tonnes de trucs, mais ils l'ont fait suffisamment intelligemment pour pas que ça se voie trop. Mais c'est quelqu'un qui a ouvert au niveau des formes un truc hallucinant quand même, et qui est pas assez, à mon avis, reconnu. Je pense que ça se fera avec le temps, mais je pense que voilà, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite à ce niveau-là. N'empêche que on arrive à trouver des extraterrestres assez hallucinants, mais on les cantonne toujours dans les fonds de cases. Ils font partie du décor. C'est des trucs qui passent comme ça, mais c'est absolument pas le genre de personnage qui va interagir avec les héros. Tout bêtement parce que disposant je pense, de peu de moyens, donc disposant pas de son, de mouvement, etc., si on veut qu'il y ait une immédiateté sur les intentions de scénario dans l'échange des personnages ou même sur le partage d'émotions, on va de toute façon être obligé, en tant que créateur, de vraiment se tourner vers la partie humaine des personnages pour que cette interaction, au travers d'un album de 46-54 pages, se fasse hyper immédiatement. Il ne faut pas qu'on soit perdu. Il faut pas, je sais pas, qu'ils se retrouvent face à une pieuvre avec un œil de chèvre ou trois, et on ne comprenne pas si la pieuvre est gentille ou. Ouais, je sais que j'ai déjà parlé des yeux de chèvre hier soir, mais c'est une petite obsession des moments. Ça, et les curseurs. Alors, j'ai épuisé mon stock de curseurs. Pour ceux qui étaient là hier, je ne sais pas, je parlais beaucoup de curseurs. Aujourd'hui, je suis désolé, c'était mon dernier curse. Alors aujourd'hui, donc on n'en parlera plus. N'empêche que, bon, mais voilà, j'en reviens un peu à mon propos. N'empêche que pour que l'histoire avance et pour que les émotions véhiculées entre les diverses parties soient suffisamment facilement intelligibles, ils vont de toute façon revenir vers des formes anthropomorphiques, donc vers nous. On va quand même. L'autre, il n'est pas si différent que nous. Donc ça correspond aussi à. En disant ça, à ce qu'ils cherchaient un peu à l'époque aussi, une ouverture vers le monde où ils pensaient aussi qu'au-delà des différences, on allait aussi se retrouver entre frères humains. Et je pense que ça a été une façon de parler de cette période-là à ce moment-là. Donc l'extraterrestre, en fait, en définitive, ça a été un miroir complet à ce moment-là pour cette œuvre-là. Et je pense pour aussi Voilà tout ce qui s'est passé dans cette période de l'humanité, en tout cas en Occident, parce que de toute façon, on est occidentaux, on a vraiment un point de vue qui n'est pas partagé par l'ensemble de la planète. Voilà. Pour ce qui est de. Donc voilà, donc cette œuvre-là va rester. Et pour ce qui est de l'illustration, alors il y a beaucoup d'illustrateurs. Il y a eu beaucoup d'illustrateurs après-guerre, mais qui étaient plutôt employés dans la publicité, ce genre de trucs-là, ou dans les. Il y a eu aussi dans l'industrie lourde, parce qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de modélisation. Il y avait beaucoup moins de facilités techniques. Donc l'illustration était vraiment mise en avant pour parler de choses à venir. Donc il y avait beaucoup de. Il n'y avait pas de Photoshop, de choses comme ça. Donc l'illustrateur était un peu une espèce de. Voilà, de démiurge qu'on mettait au carrefour de pas mal de domaines d'activité. Bon, il y avait la presse, il y avait l'illustration de livres, de bouquins, de choses comme ça. Toute la force de pénétration de la SF de l'époque aussi est aussi arrivée par les couvertures. On s'est quand même retrouvé hyper vite avec des artistes qui ont été emblématiques, pas forcément en science-fiction, mais quand on voit quelqu'un comme Frazetta, on se dit, ben, qu'aurait été la reconnaissance de l'œuvre de Howard, de Conan, de choses comme ça, sans Frazetta. Donc, s'il y avait vraiment une mise en avant de ces créateurs-là, alors qu'ils faisaient des images des fois, mais qui racontaient des petites histoires. Et eux, je pense qu'ils étaient dans une situation hybride, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même censés. C'est un art bien évidemment éminemment commercial, parce que c'est un peu ce que je dis des fois à des jeunes auteurs. Je leur dis, mais ta couverture, c'est un peu comme une fille de joie, une pute, allons-nous dire, qui est là pour tenter le client, pour l'inciter à monter à l'étage. Ça va pas forcément représenter ce qu'il y a dans l'album, forcément, ou dans le roman, mais elle doit être suffisamment putassière pour vraiment donner envie de prendre le bouquin dans la main, de feuilleter les pages et de voir si ça plaît ou pas, ou de lire le résumé, mais en tout cas, elle est là pour ça. Donc, étant donné que c'est un art commercial, éminemment commercial, surtout dans ces années-là sur les couvertures de romans, on va pas du tout pouvoir aller dans la subtilité. Donc, ce qui est arrivé dans les années 60, toute cette ouverture au monde, je pense que en termes d'illustration, l'illustration qui était emblématique s'est retrouvée un peu, eh ben, reléguée un peu en arrière-plan, elle est restée un art commercial. Voilà, un peu, oui, putassier, quoi, un peu basique. On était plus du côté de la vente de lessive que d'œuvres majeures de la science-fiction, comme toutes celles, en tout cas de romans écrits dans ces années-là, comme les Lester Jones, les Dick, tout ça. C'est vrai, des fois, quand on regarde les couvertures, des fois, on est effondré. Il y a des petites couvertures où il y a pas mal de graphismes qui sont assez intéressantes, mais par moments, on s'est dit, mais comment ces bouquins ont pu trouver leur public et trouver vraiment une résonance au travers du temps avec. À la base, des couvertures aussi hallucinantes de conneries, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Donc l'illustration se trouve un peu à la bourre, mais dans les marges, on commence quand même à voir des illustrateurs qui, eux, vous êtes virés. Des illustrateurs qui, eux, commencent. Alors, sont intéressés par la science-fiction parce que c'est aussi des baby-boomers. Alors, ils bossent pas pour le cinéma. Ils ont des boulots alimentaires dans l'illustration parce qu'il faut bien en vivre, ou pour l'industrie, mais c'est vraiment des gens qui sont passionnés par. Alors, au-delà de la science-fiction, évidemment, ils ont commencé par ça, mais qui sont aussi passionnés par le monde de demain, par le progrès technique, par ce genre de trucs-là. Et alors, j'insiste plutôt sur le progrès technique que sur l'ouverture au monde, parce que c'est des gens qui, en développant une maîtrise technique de leur art, vont permettre plus tard, en étant récupérés. Vous êtes viré aussi, en étant récupéré par l'industrie cinématographique, de donner vraiment corps de manière hyper efficace à la nouvelle génération de films, donc qu'on évoquera plus tard. Alors, ces gens-là, c'est qui? Ben, il y en a deux qu'on connaît vraiment beaucoup, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais il y en a deux qui sont vraiment emblématiques. C'est Ralph McQuarrie, qui est connu pour tout le travail de pré-production qu'il a accompli sur les premiers Star Wars. Toutes les peintures de pré-production que vous voyez sur les premières visions de C-3PO, les Stormtroopers, tout ça, c'est une création de Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie, il fait quoi? Il commence sa carrière dans les années 50, après la guerre de Corée, en allant travailler pour l'industrie de l'acier. Donc, c'est des gars qui ont une expertise technique dans ce qu'ils représentent, mais qui, à la base, représentent des boulons, des machines, des voitures, enfin, des trucs, des projets soit consuméristes, soit hyper avancés techniquement, mais il leur donne vraiment un corps vraiment tangible. Et ces gars-là, 10, 15 ans après, vont être récupérés par l'industrie cinématographique. Alors, je fais cette petite digression parce que ça va être important pour ce qui va se passer après dans la bande dessinée. L'autre illustrateur de cette période-là qui est important, c'est Sid Mead. Alors, Sid Mead, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est notamment le concepteur des voitures volantes de Blade Runner. Voilà, c'est le créateur de tout ce qui est l'univers militaire de Aliens, de la suite du premier Alien. Il a aussi conçu une partie des décors de Tron. Donc c'est quand même des gens qui, avec leur expertise technique et surtout leur domaine d'excellence, vont pouvoir aussi réinsuffler dans des projets hollywoodiens de deuxième génération, donc ce qui arrivera après 2001, ce qui arrivera à peu près avec Star Wars, vont pouvoir réinsuffler dans ces projets-là une réalité qu'on n'a jamais vue pour l'instant. Voilà, et voilà, là, c'est Hollywood qui va agréger plusieurs domaines de compétences. Ils vont appeler ces gens-là. Alors, des fois, quand on lit les histoires sur la façon dont ils se sont rencontrés, c'est assez miraculeux. Parce que c'est des gens qui, peut-être, à la base, auraient pu continuer sur deux chemins complètement séparés, parallèles, sans jamais être amenés à travailler ensemble. N'empêche que, 10 ans après 2000 ans, qui a connu ces petites difficultés techniques sur la façon de représenter le corps de l'extraterrestre dans le film, y a des réalisateurs qui ont 10 ans de moins que Kubrick ou 15 ans. Qui arrivent sur le devant de la scène, c'est les Coppola, les George Lucas, les John Milius, etc., les Spielberg, et qui ont vraiment envie de raconter ce type d'histoire-là. Il se trouve que les techniques qui ont commencé à être employées pour 2001 commencent à vraiment à être hyper performantes et marcher de mieux en mieux. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récupérer les illustrateurs qui étaient un peu à la traîne sur la représentation du corps de l'extraterrestre, ils vont les récupérer pour leurs compétences techniques dans les films. Et surtout, ils vont aussi aller voir, alors là je parle surtout de George Lucas, ils vont aller voir ce qui s'est fait un peu dans le monde entre-temps en termes d'iconographie. Donc les illustrateurs américains les ont repérés. Et puis il se trouve qu'en Europe, dans notre petit village de Gaulois, il y a quand même des trucs intéressants qui se passent en termes de bande dessinée. Et la bande dessinée emblématique de science-fiction de ces années-là, c'est Valérian. Et évidemment, ils vont ouvrir les Valérians et ils vont regarder ce qui se passe dedans et ça va leur donner vraiment plein d'idées. Parce que quand on fait un comparatif entre l'imagerie du premier Star Wars et certains bouquins de Valérian, on se dit que clairement, il y a eu une influence majeure qui s'est faite à ce moment-là. Après, elle a été avalée, elle a été digérée, elle a été régurgitée différemment. Mais n'empêche que tout ça a commencé vraiment à se regrouper à ce moment-là. Ça s'est d'autant plus regroupé que, mine de rien, l'industrie hollywoodienne se souvenait toujours de 2001. Et il y a eu un petit coup d'État interne, mais n'empêche que c'était le moment aussi pour passer un cap supérieur et puis vraiment proposer des univers, des personnages qui allaient vraiment aller à la rencontre de l'extraterrestre de manière beaucoup plus réaliste que ce qui n'avait pas pu être fait avec 2000 ans. Voilà, donc ça c'est un moment important dans lequel n'émergent pas de nouvelles séries importantes en franco-belge comme Valérian, mais n'empêche qu'il y a une myriade de créateurs à l'époque, il y a Druillet quand même qui arrive. Alors il ne parle pas forcément de l'extraterrestre, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent aussi. Je pense que la représentation de l'extraterrestre passe de la bande dessinée franco-belge plutôt vers l'industrie hollywoodienne, tout bêtement par des questions d'intérêt et puis aussi de techniques qui évoluent beaucoup. Mais il se passe quand même beaucoup de choses intéressantes en France, mais n'empêche que l'extraterrestre n'est plus du tout, en tout cas en France, au centre des préoccupations qu'on aurait pu avoir dans les années 60 quand il y a eu l'ouverture au monde. Donc il y a Druillet qui arrive, il y a Moebius qui prend un peu à tout le monde, voilà, qui va proposer des trucs hallucinants, alors plus basés à la base sur la poésie que sur de la science-fiction, sur de la hard science. Voilà, donc ça c'est un moment aussi intéressant parce que Hollywood prend un peu la main sur la bande dessinée franco-belge en proposant les créations les plus originales, mais en se nourrissant de ce qui s'est fait en Europe. Et elle va prendre la main pendant longtemps, parce que voilà, y a la force des images en mouvement, le son, ça a quand même une autre force d'attraction sur tous les publics, pas seulement nationaux, mais aussi internationaux, qu'une bande dessinée qui est certes plus peut-être facile à lire à l'époque que d'aller voir un film, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de caméscope, il n'y a pas de cassette vidéo, rien. Si on veut voir un film, on va aller le voir. Donc on peut se dire quand même que globalement, c'est un moyen de diffusion d'une œuvre, d'une idée qui est quand même beaucoup plus difficile, limitée. Mais alors, quand on arrive à toucher le public, elle a un impact décuplé. N'empêche que, au moment du premier Star Wars, ils vont aussi quand même se heurter à un petit problème de représentation du corps de l'extraterrestre. Parce que l'extraterrestre, du fait des influences franco-belges, notamment de Valérian, va quand même se retrouver aussi un peu cantonné au fond de l'image. Il va y avoir des extraterrestres qui vont interagir avec les héros, bien évidemment, mais n'empêche qu'ils vont aussi se retrouver face à des contraintes techniques qui vont faire en sorte qu'il ne va pas y avoir, à part Chewbacca, qui est quand même une espèce de singe, chien, géant, il n'y a pas d'extraterrestre majeur dans ces premiers films, parce que tout simplement, il y a encore des problèmes techniques. D'ailleurs, Chewbacca a été conçu par Stuart Freeborn, qui avait conçu les singes de 2001. Alors, il y a aussi une continuité à ce niveau-là au sein de l'industrie hollywoodienne, n'empêche qu'il y a quand même toujours des limitations à ce niveau-là. Et donc, encore une fois, l'humain se retrouve face à quelque chose qui lui ressemble quand même beaucoup, tout bêtement, par des problèmes techniques, entre autres. De toute façon, on verra ça plus tard aussi, parce que les nouveaux films de Star Wars arriveront, on verra que par l'image numérique, la 3D, on se retrouvera face à des formes de vie beaucoup plus hallucinante, ça ne sera pas forcément fait au crédit de l'histoire. Ça n'amènera pas forcément quelque chose d'intéressant. Enfin voilà. Donc ce moment-là est intéressant aussi pour ça, à double titre, parce que voilà, y a la passation de pouvoir, je pense, de l'imaginaire lié aux extraterrestres, en fait, la représentation de l'Europe aux États-Unis. Et puis je pense qu'il y a aussi, sans le vouloir, une espèce de préparation de l'avenir. C'est-à-dire que tout ce qui est véhiculé par ces films américains commence à faire partie de ce qu'on appelle le soft power. Donc ça va commencer à infuser dans le monde entier. Ça va être un peu à l'origine d'une espèce de culture mondiale qui nous semble évidente maintenant, mais qui avait l'air hyper neuve dans ces années-là. Il y a les Japonais qui vont s'engouffrer dans la brèche quelques années plus tard avec le manga. Là, vous voyez bien que dans les films actuels, il y a au moins deux esthétiques qui se sont combinées. C'est Hollywood et le manga qui sont vraiment connus partout dans le monde. Nous, on est encore un peu, on est reconnus au niveau création, au niveau comment critique, mais je trouve qu'en termes de création européenne, on va dire même franco-belge, parce que la bande dessinée en Europe, c'est vrai que tout va vers le franco-belge, il n'y a pas eu voilà, une reconnaissance comme ça mondiale de l'esthétique. C'est des trucs qui ont été un peu vampirisés par l'industrie hollywoodienne et l'industrie du manga, mais qui ont été vampirisés, donc qui ont un peu disparu dans le processus. Donc ça aussi, c'est voilà, Star Wars pour moi, c'est aussi un peu le début de ça. C'est-à-dire que il va vraiment y avoir une culture globale qui va émerger de tout ça. Et à terme, on peut se dire comment est-ce qu'on peut parler encore de quelque chose de différent dans des œuvres à venir quand notre imaginaire devient hyper commun, vraiment à l'échelle de la planète, en tout cas du monde occidental. Comment est-ce qu'on peut avoir des visions encore suffisamment différentes, en tout cas dans la forme, pour représenter l'inconnu? Moi, je pense que c'est là, à ce moment-là, il y a eu une espèce de moment charnière qui a fait en sorte que tout s'est homogénéisé, tout s'est un peu standardisé. Et ça, je trouve que c'est pas le début de la fin, parce que c'est des cycles, évidemment, on voit bien que c'est des cycles. Mais n'empêche que là, il y a vraiment eu une année zéro d'une espèce de culture mondiale de l'imaginaire qui a vraiment germé à ce niveau-là. Et puis alors, l'impact est d'autant plus difficilement mesurable dans les détails que des univers comme Star Wars, non contents de se cantonner au fil des années aux écrans de cinéma, se sont exportés dans le jeu, dans le jeu de rôle, dans l'illustration, donc des choses qu'il avait nourries, dans la bande dessinée. Là, c'est des univers aussi qui ont fini aussi par vampiriser la forme des œuvres qu'eux-mêmes avaient vampirisées en allant conquérir leur propre territoire. C'est-à-dire qu'il y a des franchises comme Star Wars qui, à un moment donné, au milieu des années, fin des années 80, début 90, ont survécu, non pas grâce aux films qui avaient complètement disparu des écrans, mais ils ont survécu grâce à tout ce qui s'est développé en bande dessinée, en comics américains. À la base, c'était vraiment des auteurs américains qui faisaient des sous-produits Star Wars, mais n'empêche qu'avec la force de persuasion et la force de frappe de l'industrie mainstream américaine, c'est des trucs qui se sont retrouvés dans tous les pays aussi qui avaient développé, qui avaient adopté Star Wars. Donc il y a aussi là une espèce d'effet boomerang involontaire qui nous a un peu colonisé aussi les esprits dans la forme qui avait été développée dans notre société européenne. C'est-à-dire qu'on a quand même vachement de livres, beaucoup de livres, beaucoup de bandes dessinées qui sont revenues porteuses de valeurs et puis d'une vision du monde hollywoodienne qui était vraiment un peu à sens unique. Donc voilà, moi je trouve que c'était quand même un peu une espèce de déflagration dont on ne s'est pas forcément rendu compte à l'époque, mais dans laquelle on vit encore maintenant. Parce que vous voyez, quand il y avait une rencontre du troisième type, un Star Wars ou des choses comme ça qui arrivaient à l'époque, c'était des événements. Maintenant, c'est la production de l'année de la franchise pour que le requin continue à nager pour pas couler. Voilà, ça fait partie vraiment de. On est vraiment dans un système, non pas d'exception, non pas de découverte, mais de standardisation et de rémanence et de répétition. Là, on a envie de vomir. Enfin, moi, quand je sais pas vous, mais moi, quand je vois des films comme ça ne m'intéresse même plus. Je me dis, c'est vraiment de la copie carbone de ce qu'on a pu avoir à un moment donné. C'est peut-être une question d'âge, hein, peut-être aussi, peut-être une question d'évolution personnelle, mais n'empêche qu'on n'est plus dans l'exception, on n'est plus dans la découverte, on est vraiment dans la répétition ad vitam aeternam. Deux codes qui ont été établis à l'époque et qui ont été développés vraiment sur divers supports. Bon, alors vous allez me dire, la bande dessinée là-dedans, elle devient quoi? Elle s'est fait coloniser par les Américains. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les pauvres créateurs français qui ont encore envie d'essayer d'aller vers l'autre, d'aller vers le corps de l'extraterrestre, etc. Ben, il se trouve qu'il y a quand même, donc, comme je le disais, à la fin des années 80, début des années 90, une espèce de ventre mou en termes de création, un peu à l'échelle mondiale. La bande dessinée en Europe, il y a les journaux ont disparu, les journaux de bande dessinée type Metal Hurlant, bon, il y en a qui sont encore là, mais des journaux ou des éditeurs qui vraiment avaient envie de véhiculer ce type d'histoire-là disparaissent ou commencent vraiment sérieusement à battre de l'aile, ont moins de moyens. Il y a des gens qui partent, Dionne part à Canal+, il y a des choses comme ça. Donc il y a quand même des chefs de file, soit qui disparaissent, soit qui vont faire autre chose. Parce que bah, la vie est comme ça, ils ont bien le droit d'évoluer vers d'autres domaines d'activité s'ils en ont envie. Et donc voilà, ça se passe en Europe, il y a un peu un marché des fois qui est un peu stagnant. Alors, je parle de la disparition des magazines parce que pour des créateurs, moi j'en sais vraiment quelque chose parce que j'ai commencé à bosser dans ces années-là. C'est un carnage. On arrive après la fête. Vous avez l'impression que vous avez vu pendant toute votre enfance les années métal et tout ça. Vous avez vu une super fête avec des tonnes de créateurs. On s'amuse beaucoup, c'est génial. On vous invite à une super fête costumée. Ça va être top. C'est le truc de l'année. Quand vous sonnez, ça vient de finir. Il n'y a plus personne. Il y a, je sais pas, il y a Fabien avec un verre qui reste comme ça, Fabien Velman, et qui vous propose une danse en solo sur un espèce de, sur un air un peu triste. Donc, c'est vachement bien de passer un moment avec Fabien, mais d'un autre côté, comment on va aller de l'avant avec tout ça? C'est pas possible. On n'a plus le moyen de raconter ce qu'on a envie de raconter. Des fois, on est un peu jeune, mais en tout cas, peut-être que si ce qu'on a raconté n'est pas complètement abouti, mine de rien, on n'a même pas la chance de pouvoir rencontrer des gens qui vous ressemblent un minimum et qui vont avoir envie de bâtir des œuvres avec vous. Donc ça, c'est super emmerdant. Donc il y a ça qui se passe. Et puis, attendez, je voulais vous parler d'un autre truc qui se passe en même temps, qui est un peu emmerdant. Ben oui, en plus de ça, dans la société, il y a quand même un repli intérieur qui se fait. Il y a quand même, on commence à parler de crise qui s'installe. C'est quand même les années SIDA. Il y a tout ça, donc c'est quand même pas des années super chouettes non plus, parce que tout ça, c'est vraiment des petites couches de mauvaises nouvelles qui viennent les unes par-dessus les autres et qui donnent pas forcément envie de parler de trucs cool ou d'aller vers les autres, etc. Il y a quand même une espèce de petite crispation qui se fait à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Malgré ça, il y a quand même il y a une petite lumière au fond du tunnel, comme ça, que j'ai connue. J'en parlais avec des amis hier soir. Tous ces magazines disparaissent. On a l'impression que tous les créateurs, bah, Moebius part à Hollywood. On a l'impression qu'il y a la nouvelle génération. Bah, on fait peut-être partie d'une nouvelle génération, mais on est perdu dans notre petit coin. Malgré ça, il y a un petit axe de résistance qui se met en place auquel on n'a pas du tout pensé. C'est le jeu de rôle. Alors, j'en parle d'autant plus que j'aime pas du tout jouer au jeu de rôle. J'ai jamais accroché ce truc-là. Mais n'empêche que, à un moment donné, ça va être la bouée de sauvetage de tous les créateurs comme moi, de ma génération, qui arrivent sur le marché et qui ont envie de rencontrer des gens et qui ont envie de faire des choses et qui ne veulent pas se refondre dans le moule d'une création, soit publicitaire, en tout cas hyper marchande, qui reste à peu près la seule dont on va pouvoir disposer à l'époque pour commencer dans la vie. Donc c'est quand même un magazine. C'est pareil, je parlais tout à l'heure de Mézières, qui est un peu le poulie d'or de la bande dessinée. Je pense qu'on commence à peine à se rendre compte de l'importance qu'a eu Casus Belli, qui était quand même la revue emblématique des jeux de rôle de l'époque, à cette époque-là, parce qu'il y a quand même des créateurs à l'époque actuelle qui se réclament de l'utilisation des jeux de rôle dans leur formation même de créateurs, comme Johan Sfar, comme Alain Hérol, qui a fait 2 capes et 2 crocs. Et puis surtout, ça permettra à des gens comme moi de se rencontrer, tout bêtement, de commencer à publier des dessins sur tes scénarios. Bon, voilà, c'est des petits scénarios de jeux de rôle, on est chargé de faire des illustrations, des fois on nous confie une couverture, et ça va être une espèce comme ça de... C'est pas déjà fini ? Ah bon ? J'en ai encore pour 2 heures. Alors, je commence à parler de Casus Belli, alors... Voilà, ça va être une espèce de nouvelle Kaamelott, où vraiment, pas Kaamelott, Kaamelott, où vraiment il va y avoir un peu les espèces de chevaliers qui ont envie de partir vraiment à l'assaut du futur, qui vont se retrouver. Alors il ne va pas y avoir que ça, il ne va pas y avoir que, bien sûr, mais on se rend compte avec les années que c'est vraiment cet endroit-là qui va vraiment cristalliser à un moment donné, qui va être un point de rencontre pour tous les gens qui arrivent, sur, en tout cas en France, sur le marché, à ce moment-là. Et il est aussi intéressant de voir que il va se passer à peu près la même chose aux États-Unis, différemment, mais n'empêche qu'il y a aussi des illustrateurs, peut-être que vous connaissez, comme Brome, qui a un univers très, très dark, très noir, ou des gens comme ça, qui vont vraiment pouvoir commencer à s'exprimer là-dedans, dans ces années-là. Donc ce ventre mou, comme ça, mine de rien, s'il prépare l'avenir, sur le moment, il permet de limiter les dégâts, mais c'est quand même pas génial, quoi. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir se passer à partir de là ? On ne peut pas non plus en rester dans cette espèce de parenthèse plus ou moins enchantée. On ne peut pas rester sur cette espèce de statu quo, même si c'est quand même chouette. Ça permet un minimum de fédérer des forces, de rencontrer des gens. C'est à peu près assez dans ces années-là que je rencontre pour la première fois Vatine, que je rencontre Stan Evans. Il y a Jean-Louis Mourier qui va travailler plus tard avec Arleston, que je vois là-bas. Enfin, il y a vraiment plein de gens qui vont émerger dans les années suivantes qui vont commencer là-bas. Donc c'est vraiment un creuset formidable. N'empêche que, on ne pouvait pas en rester à ça. Ce qui va se passer de manière tout aussi miraculeuse, c'est que c'est toujours pareil, quoi. C'est le cycle de la vie. Des cendres renaissent des petites fleurs. Donc il y a des petites maisons d'édition qui reviennent à ce moment-là. Alors, pas sur le devant de la scène, parce que déjà, le marché de la bande dessinée, il y a beaucoup moins d'albums que maintenant, mais le marché n'est pas évident quand même. Il y a quand même des boîtes comme Dargo, tout ça, qui tiennent toujours le haut du pavé, mais il y a quand même les humanoïdes associés qui sont un peu en difficulté, qui défendaient quand même une SF qui venait des années pilotes, qui est quand même assez en difficulté. Mais n'empêche qu'il y a des maisons qui commencent à sortir de terre. Alors il y a les éditions Delcourt, que maintenant on ne présente plus, mais à l'époque, ils commencent à peine. Il y a aussi les éditions Zinda. Alors les éditions Zinda, c'est peut-être un éditeur qui a été un peu oublié, mais qui à l'époque était le concurrent direct des éditions Delcourt. Et qui a été très important aussi parce que ça a été le relais essentiel et le premier relais de ce qui commençait à se passer dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé à faire des illustrations dans le jeu de rôle ont été appelés par Zinda pour faire des albums. Alors des gens comme moi, des fois on m'appelle une première fois, je dis non, ça ne m'intéresse absolument pas, j'y crois plus. Et puis de fil en aiguille, avec vraiment des rappels téléphoniques incessants, tout ça, on finit tous un peu par se faire mettre la main aux fesses, et puis a bien aimé ça, donc on va tous aller signer un album chez eux, et ça va être formidable. Alors pourquoi j'insiste sur Zinda ? Parce que tout bêtement, c'est une maison d'édition qui est fondée par je ne sais pas si on peut les appeler des créateurs, en tout cas deux personnes qui vont à un moment donné fédérer les forces vives de l'imaginaire, en tout cas sous forme de bande dessinée en France, c'est Jacques Collin. Jacques Collin qui est un personnage assez incroyable, qui est une espèce de géant, qui a été Hells Angel en Allemagne. Son surnom, c'était le Yeti. Donc, il est inutile de vous dire que quand vous négociez vos premiers contrats avec lui, c'est quand même assez embêtant. On n'a pas trop envie de le contredire. Et le deuxième personnage essentiel, et non moins fourbe, de cette entreprise, c'est Doug Edline. Alors, pourquoi c'est important, Zinda, et pourquoi c'est important Doug Edline ? Tout bêtement, parce que Doug Edline, c'est quelqu'un qui vient de Metal Hurlant. Tout bêtement, qui a fondé Starfix, donc qui est une des premières revues de cinéma de genre importantes depuis longtemps, au début des années 80. Et puis, Metal Hurlant, quoi. Pour les rescapés comme moi, qui ont réussi à ne pas se noyer et à surnager un peu comme ça, faire quelques petites brasses dans cette mer agitée du paysage éditorial de ces années-là, Doug Edline, c'est comme si on nous balançait une bouée de sauvetage ou un petit bateau. Enfin, on est super contents. On a quand même un des jalons des années métal qui vient vers nous et qui nous propose de continuer l'aventure d'une autre façon. Donc, c'est quelqu'un qui, à l'époque, va signer les premiers albums d'auteurs qui se réclamaient de métal hurlant, plus de métal hurlant que de pilote, mais en tout cas des gens qui ont envie d'aller vers des mondes imaginaires, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, ce genre de truc-là. Donc, bah, moi j'ai commencé là-bas, il y a Jess qui va dessiner plus tard Carmen McCallum qui commence là-bas, il y a Stan Evans, il y a qui peut y avoir d'autres, il y a. Ah, évidemment, c'est des copains, donc je ne me souviens pas de leur nom. En tout cas, il y en a plein. Maintenant, il y a des auteurs qui sont emblématiques chez Delcourt, et même chez Dargaud, chez Dupuis, qui ont commencé là-bas. Il y a même un des. Comment il s'appelle? Il y a un des créateurs du cinquième élément qui a commencé là-bas, qui faisait un petit truc de fantasy. Patrice Garcia, voilà, je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un qui a créé tout l'univers des Minimoys, alors après, on pense à ce qu'on en veut, mais du cinquième élément, de choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui va faire ses premiers albums chez Zynda. Donc, ce qui est important dans cette période-là, c'est qu'il y a de nouveau un petit jalon qui est posé pour, à terme, et bien évidemment, on n'en est pas là dans ces années-là, mais en tout cas, à terme, re-aller vers le type de création qu'on avait adoré du temps de Valérian et qui n'existait absolument plus dans ces années-là, parce qu'on était vraiment dans une période de creux incroyable. Donc voilà, c'est une entreprise qui va prendre du temps, c'est une entreprise qui va aussi être vouée à l'échec à un moment donné, parce que les éditions Zynda sont très très mal gérées. Donc toutes les forces vives qu'ils avaient réussi à accréditer vont partir un peu à droite à gauche à un moment donné. N'empêche que toutes les petites graines sont semées à ce moment-là, en tout cas pour tout ce qui est franco-belge. Donc ça, c'est vraiment important pour la suite. Qu'est-ce qui se passe en parallèle aux États-Unis? Bah, c'est pareil, c'est un peu une période de creux. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des franchises qui arrivent à survivre d'une manière ou d'une autre. Au niveau cinéma, bah, on a presque l'impression d'être revenu dans les années 50 avec la peur du communisme. C'est du cinéma un peu bis avec des monstres qui vont attaquer des gens. Qui viennent d'ailleurs ou pas, ou qui viennent de l'intérieur des corps. Ben, on parlait d'Alien tout à l'heure. Il y a aussi, à un moment donné, c'est marrant avec Alien, parce que c'est une petite digression, mais on se dit 2001, c'est un film qui arrive juste avant la conquête spatiale et qui est porteur d'espoir pour l'humanité, parce qu'on se dit, oh, ça y est, on a enfin l'occasion d'aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va forcément être élevé à plusieurs niveaux de conscience, de je sais pas, de plein de choses comme ça. Donc c'est une période d'espérance. Et 10 ans plus tard, vous avez Alien, le premier Alien de Ridley Scott, qui est un peu le contrepoint négatif de cette vision-là, de ces désirs-là. C'est un film qui arrive juste à la fin des missions lunaires. Donc on a tourné le dos à l'espace, qui arrive en même temps que les premières crises pétrolières, qui arrive en même temps. Ça peut peut-être vous dire, mais pourquoi il parle de ça? Avec 2001, on est sur les Beatles, on est sur voilà pareil en termes de musique et tout ça. Avec Alien, on est sur le punk, on est vraiment sur autre chose, on a viré dans un univers très très noir. Et vraiment, le corps de l'extraterrestre, on va le laisser où il est. Il nous fait peur, il est porteur de messages hyper anxiogènes, voire il va nous attaquer à l'intérieur de nos propres corps. On se dit même que quelque part, ça annonce un peu les années SIDA, ce genre de choses-là. C'est vraiment, on est allé vers la lumière et on retourne vers la noirceur. Des fois, j'ai l'impression, quand je pense à ces deux films, que du monolithe de 2001, ce monolithe noir, carré, pur, est sorti la gargouille d'Alien, qui est aussi noire et qui, voilà, c'est une vision techno-industrielle qui nous revient à la figure. Et on se dit, bah voilà, il y a un cycle qui est en train de se refermer à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau d'Hollywood dans ces années-là, on retombe un peu dans les schémas des années 50. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout tourné vers l'extérieur, vers la découverte. On est vraiment définitivement entré dans du commercial. La première vague est passée, la vague des Star Wars, Spielberg et tout ça, parce que Spielberg commence avec de la SF et puis il va vers autre chose après. Il a envie de diversifier sa palette. Et vraiment, c'est aussi, voilà, c'est un peu des années de creux comme ça, où ça va survivre. Il va y avoir ça, ça va se, se, se il va y avoir, ça va survivre au travers de plein de petites niches, de plein de petits. De plein de petites formules, de films de monstres, de films. Il y a les zombies qui arrivent aussi avec la crise économique, ils étaient déjà un peu arrivés dans les années 60, mais voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui sont en train de prendre le pas sur la recherche d'interaction avec l'autre, avec l'extraterrestre. Vraiment, tout le monde se replie sur soi. Et ça va perdurer à peu près jusqu'à la fin des années 90. Moi, je pense que c'est pour ça que, quand on parlait de sillage au début, je me dis, ben, il est normal, même s'il y a eu des œuvres intéressantes, s'il y a eu des œuvres comme celle de Moebius qui ont été à moitié bâties sur l'usage de la drogue et tout ça, on est un peu parti sur des mondes intérieurs, des mondes interdits, voilà. Mais n'empêche qu'on est moins allé vers l'extérieur. Et Voilà, tout ça, tout ce qui se passe à Hollywood, tout ce qui se passe dans la bande dessinée franco-belge, eh ben ça va un peu perdurer comme ça entre deux eaux jusqu'à l'orée des années 2000, 99, 2000, tout ça, avec l'Internet naissant. Enfin, il est là depuis quelque temps, mais n'empêche que là, il prend une autre forme, une autre force. Il devient accessible à tout le monde. Et comme par hasard, ben c'est à ce moment-là une autre série majeure, la deuxième série majeure en franco-belge va arriver, c'est Sillage. Voilà. Alors Sillage, c'est quoi? Est-ce qu'on vous pensez qu'on peut se dire que c'est une espèce de Valérian bis? Est-ce que vous le voyez comme ça ou est-ce que vous le voyez comme autre chose? Voilà. Voilà, ben, je suis assez d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est une espèce de Valérian. Bah déjà, au singulier, il y a un des deux personnages principaux qui a disparu, mine de rien, il n'y a plus qu'un personnage humain. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une espèce de reboot de Valérian, mais dans un monde complètement différent. C'est un monde qui a été infusé par la culture mainstream d'Hollywood et du manga, parce que le manga est passé par là. Il y a eu Akira qui est arrivé, qui s'est faufilé dans les interstices laissés vacants par l'industrie américaine, les comics et tout ça. Bon, il y a eu des hauts et des bas. N'empêche que le manga est arrivé en force depuis. Et là, ça va faire toute la différence. Alors, toute la différence en termes esthétiques. Hein, j'entends bien. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'esthétique qui avait été initiée à l'époque de Valérian, elle venait de la littérature. Il y avait très peu de représentations visuelles d'extraterrestres, de mondes, comme ça, il y avait un peu d'illustrations, mais ça venait principalement de la littérature, qui était encore assez confidentielle en Europe. Quand Sillage arrive, Sillage, ça vient de quoi? Ben, ça vient de Star Wars, donc d'œuvres hollywoodiennes qui ont phagocyté ce qui se faisait en partie en Europe, qui ont phagocyté le travail des designers industriels, des illustrateurs. Et puis ça vient aussi surtout de ce qui s'est passé au Japon entre-temps. Voilà. Il y a eu Akira, il y a eu Miyazaki qui a commencé. Et tout ça, alors je ne dis pas ça pour dire que c'est mal, mais n'empêche que la création, l'extraterrestre qui arrive à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup moins de réflexion sur des thèmes profonds que du temps de Valérian, sur l'écologie, sur le respect de l'autre, etc. Et c'est une série qui va être beaucoup plus tournée vers l'esthétique. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de thème sous-jacent, bien évidemment, parce que là, à la limite, Nevis, c'est plutôt à la recherche de ses origines. Et quand on est à la recherche de ses origines au milieu d'étrangers qui ne nous ressemblent pas, c'est qu'on est quand même centré sur nous-mêmes, on ne va pas vers l'autre. Elle est dans la même position que les héros de Valérian, mais n'empêche que tout ce qui l'intéresse, c'est elle-même. Donc on est vraiment dans une société qui, au-delà de ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80, on voit bien que même si on est confronté à des corps extraterrestres, on va pas, peut-être qu'on va vers eux dans la forme, mais dans le fond, pas du tout. Dans la fond, ce qui nous intéresse, c'est nous, parce qu'il y a la crise économique, il y a tout ce qui s'est mal déroulé les dernières décennies qui est arrivé et qui a infusé tout ça. Donc voilà, ça, je trouve ça intéressant pour ça, parce qu'on peut se dire que ce sont deux séries relativement proches. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait une soirée, je me souviendrai toujours, il y a eu une expo Möbius Miyazaki à la Monnaie de Paris. J'étais là ce soir-là et je connais très bien Philippe Boucher. Et j'ai voulu le présenter à Jean-Claude Mézières, que je connais aussi très bien. Et ben, les deux, à un moment donné, n'ont pas presque pas tout fait pour ne pas se rencontrer, mais on sentait bien qu'il y avait une petite rivalité parce que c'est des univers et des intentions qui sont à la base assez, assez similaires. On avait presque l'impression à l'époque, en tout cas au tout début de Sillage, que c'était un espèce de reboot de Valérian qui allait amener le truc plus loin. Donc c'est marrant. Moi, ça m'a permis aussi définitivement de voir la passation de pouvoir qu'il y avait eu à ce moment-là entre les deux séries. Et mine de rien, dans le fond, on s'aperçoit quand même que c'est une série qui ne va pas du tout vers l'extérieur, qui va vers l'intérieur, qui ne s'intéresse qu'à nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme la forme est beaucoup plus internationale, je pense que c'est une série aussi qui s'est diffusée plus vite que Valérian à l'époque. Alors, elle s'est diffusée aussi parce que, voilà, comme je vous le disais, il y a une esthétique internationale qui est beaucoup plus présente que du temps de Valérian, où chacun évolue un peu dans son coin. Mais je pense aussi que c'est une esthétique qui est assez superficielle, tout bêtement. Et je me dis, ben, on n'est pas du tout encore une fois, moi, ça ne fait qu'accréditer le fait que je pense que c'est vraiment qu'on n'est pas du tout dans la recherche de l'autre. Encore, en tout cas, au moment où cette série arrive, on est vraiment dans la recherche de soi-même encore. On est encore en train d'essayer de trouver des réponses. Après, on peut très bien me rétorquer, oui, quand on va chercher un contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on cherche aussi des réponses sur soi-même, bien évidemment. Mais là, je pense que à ce niveau-là, ça a vraiment été la grosse différence entre les deux séries. Et puis, ben, C'est une série qui a été reconnue à l'international, alors beaucoup plus vite que Valérian, parce que tout bêtement, l'imaginaire est revenu en force à l'époque. Et puis, oui, pardon. C'est vrai. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que le convoitillage est tout le temps à la recherche de planètes, mais à force de bouger tout le temps, il est immobile en tant qu'entité constituée de tonnes de vaisseaux. Et mine de rien, alors je comprends bien ce que vous dites, Valérian et Laureline étaient un peu dépositaires d'une autorité, d'un empire, donc d'un empire soit colonial, soit militaire, mais ils avaient un côté très humain. Je trouve que Nevis, à la limite, elle est à l'opposé complet du spectre, c'est-à-dire que c'est comme un bébé qui vient de naître, elle a été élevée hors contexte de la civilisation humaine. N'empêche que, elle est à la recherche de ses origines, et on s'aperçoit quand même que le côté militaire est très très présent dans la série. C'est-à-dire qu'elle fait un voyage immobile dans un corps qui se. C'est presque mobilier immobilis. On en revient presque à Jules Verne, mais c'est vraiment. Encore une fois, elle est concentrée et sur elle-même, je trouve. Et puis surtout, votre réflexion m'a permis aussi d'y penser. Je trouve qu'il y a un côté militaire qui. Elle est dépositaire d'une espèce d'autorité, en tout cas d'une recherche d'autorité militaire qu'il n'y avait pas dans Valérian, où ils essayaient vraiment de s'en affranchir. Parce que quand il y avait l'Empire galactique qui les envoyait en mission, ils faisaient un peu tout pour faire foirer ça. C'était une entité qui était très présente, mais qu'ils essayaient un peu de désamorcer régulièrement. Nevis, on sent vraiment que sa recherche d'identité, ça passe quand même par une imagerie qui est très militaire. Dans tous les albums, il y a toujours du conflit tout le temps. Il y a plus de conflits des fois que de conversations. Il y a des conversations, mais peut-être des fois dans un deuxième temps. Moi, je trouve que c'est aussi C'est aussi pour ça tout à l'heure que je disais que la forme a pris un peu trop le pas sur le fond par rapport à Valérian. Je trouve que quand même, toute cette imagerie militaire, elle a été aussi insufflée par tout ce qui s'est développé en termes de mainstream aux États-Unis ou au Japon. On s'aperçoit que de toute façon, c'est toujours des histoires de conflits, c'est toujours des histoires d'armes, de choses comme ça. Il y a très peu de. On n'a plus, quasiment plus de films comme Rencontre du troisième type. On a eu Premier Contact il n'y a pas longtemps de Villeneuve. Mine de rien, ça a été vraiment une espèce de respiration bienvenue parce qu'on a l'impression vraiment qu'ils produisent des films comme sur une chaîne d'armement. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et justement, je me dis par là même, je trouve que SIA, j'arrive vraiment en adéquation avec son temps parce que c'est une série qui se fond vraiment, en tout cas quand on l'aborde de manière vraiment comme ça, un peu superficielle, vraiment bien dans les canons de représentation de l'imaginaire de l'époque. Donc c'est vraiment plus basé sur le conflit qu'autre chose, ce truc-là. Voilà. Donc là, on est vraiment un peu dans un entre-deux. Toute cette période-là, maintenant, elle date d'il y a 20 ans. Que va-t-il se passer maintenant? Alors on est en train d'ouvrir différemment. Alors, il y a des contractions et des ouvertures. On voit bien qu'il y a des contractions en termes de société, de civilisation. Et puis en même temps, il y a des forces opposées qui sont peut-être vachement moins sur le devant de la scène, mais qui sont là aussi pour lutter, pour faire prendre conscience de plein de choses. Donc moi, je pense encore une fois, ce que je vous ai dit en préambule de cette petite intervention, c'est que je pense qu'on est vraiment dans un temps où la représentation du corps de l'extraterrestre, la recherche d'autres choses, va aussi véhiculer une nouvelle grande série de science-fiction qui va arriver là dans les 3-4 ans qui viennent. Je pense que le moment est venu. En tout cas, les conditions sont réunies pour ça. Et je pense que voilà, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir, qui va être incarné par une nouvelle série qui durera peut-être dans la rayonnance durant au moins 20 ans. Et moi, je suis vraiment content d'être en tout cas créateur à ce niveau-là parce que dans ce temps-là, parce que je me dis que vraiment, ça va être la première fois où je vais, et certains de mes camarades, avoir vraiment les armes pour être acteur de ce nouveau cycle en devenir. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on est arrivé au bout. Est-ce que vous auriez des questions, des choses comme ça? Non? Bon, écoutez, je pense que. Ah! Ouais, allez-y. Alors, Aqua Blue, c'est pareil. Moi, je pense que c'est une œuvre qui a. Alors, c'est une question intéressante. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est une œuvre située dans le ventre mou des années 90. C'est presque un épiphénomène, mais alors je dis pas épiphénomène pour diminuer l'importance que ça a eu. Mais je pense que c'est quand je parlais des petites graines qui ont été plantées du temps de Casus Belli dans les marges, voilà, sur les cendres de magazines emblématiques de l'époque ou d'éditeurs emblématiques de l'époque comme les Humanoïdes Associés. Je pense que c'est Aqua Blue, ça a été une des premières petites graines à germer. Mais ça n'a pas été, on voit, enfin moi j'ai pas l'impression que ce soit le phénomène qui a été Valérian ou qui a été CIH. C'est quelque chose qui à un moment donné a représenté un instant où il y a eu vraiment une ouverture vers l'écologie, ce genre de truc-là. Mais on voit bien que bah déjà les créateurs sont pas restés longtemps à la barre de la série tous les deux. C'est devenu, moi j'ai l'impression que c'est une série qui était partie pour devenir emblématique et qui s'est, par le départ d'un de ses créateurs et puis après le deuxième plus fondu à un moment donné dans un système vraiment de chaîne de montage, de franchise mainstream, comme on peut les voir à Hollywood. Je trouve que maintenant, c'est toujours une série qui existe, mais qui n'a plus d'âme, même si on ne peut pas dire que les créateurs actuels aient trahi le matériau de base. Ils sont là pour le continuer, etc. Mais je trouve que ce n'est pas une œuvre qui a acquis une dimension supérieure comme Sillage ou Valérian, parce que tout bêtement, à force de reprendre des codes mainstream venus d'ailleurs, notamment sur toute l'imagerie guerrière et tout ça, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui, à un moment donné, a obliqué vers le mainstream un peu industriel. Alors qu'effectivement, je suis assez d'accord, maintenant que vous le dites, à la base, c'était quelque chose c'était peut-être une série qui était amenée à marquer les esprits de manière plus pérenne. Gwen? Alors, les séries télévisées, pour moi, elles n'ont pas, enfin, pour l'instant, elles n'ont pas influencé Hollywood. Elles sont arrivées dans des. Ben, en fait, elles sont arrivées à un moment où Hollywood est tellement parti dans une mécanique vraiment de production de chaînes de montage, vraiment un peu sans âme, que c'est un peu comme Zinda ou Delcourt à l'époque ou Casus Belli. C'est à l'échelle d'Hollywood. D'une manière complètement différente, parce qu'à la base, c'est de la télévision, donc c'est un truc que personne ne va regarder. Ce n'est pas l'industrie principale. C'est un petit truc à côté, c'est la télé qui est vraiment un peu en déshérence à l'époque. C'est là que ça, les petites graines aussi vont être replantées de l'autre côté de l'Atlantique. Après, je pense que c'est justement, ça va permettre à certains créateurs qui n'ont pas accès à des budgets hollywoodiens, qui n'ont pas envie de jouer le jeu des influences et le côté hyper politique des jeux d'influence hollywoodiens ou des carrières ou des choses comme ça, ou qui trouvent tout bêtement pas le moyen de s'associer avec des gens comme la génération Spielberg, Lucas, etc., pour essayer vraiment de renverser la table. Ces gens-là, peut-être qu'ils sont plus pragmatiques, peut-être aussi que la période fait que ben, on est peut-être plus carriériste à ce moment-là et un peu moins rêveur. Ils vont trouver le moyen de. Ils refusent quand même le système hollywoodien, ou alors le système hollywoodien leur est fermé. Ils vont trouver moyen de développer leurs histoires d'une autre façon, mais à côté. Tu vois, c'est comme la bande dessinée, les revues, quoi, en Europe. Moi, je pense que c'est un peu ça. Et du coup, pour moi, en tout cas, je vois pas de. Alors, mais si, maintenant, il y a des vases communicants en termes de créateurs, etc. Mais je pense que c'est dans la forme. C'est deux, Hollywood et la télé américaine, type HBO, tout ça, c'est deux formes qui vont évoluer vraiment en parallèle. Mais la télé n'a plus besoin d'Hollywood pour raconter ses histoires. Tout ce qu'on voit. Alors, tu vois, on voit même des trucs comme Black Mirror, des trucs hyper pointus qu'on ne pourrait pas voir un film. Donc. Ah oui, alors écoute, Star Trek, moi je pense que ça a été pareil. Star Trek, c'est une série qui à la base aussi bénéficie un peu des ouvertures des années 60. En plus, c'est une série qui maintenant est emblématique, mais qui était quand même sur. Qui a eu un peu. Salut Denis. Qui était un peu, qui avait un peu le couperet comme ça en permanence au-dessus de la tête, qui a pu perdurer un peu malgré elle, qui a été un peu sauvée par les fans, et qui du fait qu'elle est devenue pérenne. À un moment donné, pour survivre, ou en tout cas pour se renouveler, s'est fondu dans le moule hollywoodien, tout bêtement. C'est une série qui va, c'est une franchise qui va connaître un espèce de ventre mou, comme a pu connaître Star Wars un peu plus tard, mais qui va se réinventer par le biais du cinéma. Donc, je pense que à ce niveau-là, c'est plus quelque chose c'est une création qui accepte de se fondre dans le moule hollywoodien mainstream, qui est infusé après les cultures occidentales du monde entier. Donc je ne pense pas que ce soit un acte de résistance au niveau de ce... C'est même un peu tout le contraire. Moi, je vois ça des fois, même si c'est beaucoup plus bienveillant, c'est une série que je mets un peu en parallèle avec Mission Impossible, qui est la glorification de la CIA américaine en interventionnisme complet dans le monde entier. Donc, pour moi, Star Trek, même si ce n'est pas les mêmes finalités, je pense que c'est aussi un espèce de moment comme ça où on vante la flamboyance américaine de l'Empire américain sur toutes les terres du globe ou sur toutes les planètes de la galaxie. Je pense que c'est plus le sous-texte à retirer de tout ça. Mais tu auras peut-être deviné que j'aime pas trop Star Trek. Alors, Joker, je n'ai pas vu Starman. Et puis, ça arrive beaucoup plus tard. Voilà. Voilà. Et ça arrive après E.T. aussi. Après, ça arrive avec un créateur qui est John Carpenter, qui, tout en faisant partie d'Hollywood, est toujours à la marge. Et Hollywood finira par avoir sa peau d'une manière ou d'une autre, parce que c'est quelqu'un qui, en essayant de se jouer des standards hollywoodiens et de jouer le jeu jusqu'à un certain point pour quand même imposer sa vision, est sur une corde raide. Et à un moment donné, la corde, il va en tomber, malheureusement pour lui, parce qu'il a quand même donné des œuvres majeures. Quand on voit They Live, le film où le mec met les lunettes et voit qu'on vit dans un univers hyper-consumériste, où toutes les affiches disent « reproduisez-vous, consommez, ne réfléchissez pas ». On dit clairement que quelqu'un comme ça, de toute façon, avec ces envies-là, ne pouvait vraiment pas rester indéfiniment au sein d'un système vraiment comme ça, fordien, de création. Joker aussi. Pas vu. Trop vieux. Sérieux, trop vieux. Enfin, pour moi, en tout cas. En tout cas, ce serait logique au vu de ce que j'ai tenté de vous expliquer, de ma façon de décoder ce qui s'est passé ces 40 dernières années. Après, je peux très bien me tromper, mais en tout cas, c'est une espèce de croyance que j'ai, en tout cas dans le moment où on est actuellement. Alors ça, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, on a été là pour parler de la représentation du camp de l'extraterrestre dans la bande dessinée. Donc, bien évidemment, peut-être que le curseur sera complètement à l'opposé de ce que je pense. Oui, deuxième fois. Trois. Mais n'empêche que, oui, c'est intéressant ça. Peut-être que ce sera une hybridation comme ça. Je ne sais pas. Je serai un peu plus dubitatif là-dessus. À la limite, je pense que ce sera peut-être aussi une série qui s'accompagnera d'une forme nouvelle. Parce qu'on est quand même dans un moment de la bande dessinée où, depuis l'arrivée de la nouvelle bande dessinée au début des années 90, quand même, quand même pas mal secouer les lignes. En tant que créateur, on a beaucoup plus de possibilités sur la forme qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire des albums en format plus petit, on peut faire des albums, on peut sortir du sacro-saint 46 pages pour aller sur du 54, du 80, on peut faire des bouquins de 200 pages, on peut faire du noir et blanc, on peut faire de la couleur, on peut avoir un style très réaliste, très académique ou pas du tout. Donc je pense que, par contre, peut-être que la nouvelle série qui va marquer les 20 prochaines années, qui sera centrée autour d'une recherche comme ça de l'autre, à mon avis, peut-être, c'est pas sûr non plus, mais en tout cas, elle aurait tort de pas vraiment de s'affranchir du sacro-saint code franco-belge et de l'album 46 pages cartonné grand format. Je pense que c'est aussi une série qui peut aussi aller au-delà de ce qui a été fait par Valérian Sillage, vraiment en allant au-delà de la forme. Voilà, ça, je pense que c'est peut-être aussi une des pistes possibles, mais vraiment, on en est encore au tout début. Là, je vois bien en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, qu'il y a des plaques tectoniques qui sont en train de se rapprocher. On parlait un peu d'Infinity 8 tout à l'heure. C'est vrai que ça, par contre, même si je trouve qu'elle est un peu rétrograde dans le sens que ça va un peu trop vers le passé, vers les années 50, en tout cas, au niveau de la réunion de créateurs qui venaient du mainstream ou de la BD d'auteur, là, il y a quand même quelque chose, il y a une espèce de peut-être déclaration d'intention qui était, qui était, qui était réel et qui a été vraiment développé vraiment aussi dans ce sens-là. Je trouve ça vraiment important et intéressant. Je pense qu'on voilà, ça c'est aussi une des pistes possibles. On va peut-être pas avoir un truc entre guillemets aussi bien dessiné que Valérian au sillage. On va peut-être partir sur d'autres formes de représentation. Je dis bien dessiné hein, pour bien marquer voilà, le fait qu'on peut peut-être passer sur des graphismes qui vont s'affranchir un peu plus de l'académisme qu'on en avait eu bah, dans le passé. Voilà. On en a fini? C'est bon? Ah bah alors écoutez, on en a fini. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu m'écouter déblatérer sur tous ces pauvres sujets. Et puis bah, peut-être à une prochaine fois. Merci à tous. J'ai duré ça a été.
Oui, mais nickel pour le temps.
Ah oh, mais c'est vrai.
Ah bah oui, parfait.
Oh bah génial. Oh youpi. Bien à toi.
En rentrant, je ne pensais pas qu'on rentrait directement. Je suis pas voir.